Bonjour à toutes et à tous. Alors, sans remuer le couteau dans la plaie, cette semaine, c'est la rentrée. Bon, ils sont tous descendus, mais il y a quand même le premier rang qui est concerné. Peut-être vous aussi, si, il y a Odélia là-bas. C'est pour vous peut-être aussi la reprise du travail. C'est aussi la reprise petit à petit des activités de l'Église. Eh bien, j'aimerais justement commencer par vous poser une question. Je vous laisse y répondre intérieurement. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit comme image quand vous entendez le mot « église » ? Qu'est-ce que ça évoque en vous ? Voilà, je vous laisse quelques secondes. Vous avez compris que ce matin, on va parler d'église. On va lire deux textes. Un dans le Nouveau Testament, qui va être le texte principal qu'on va lire, qui nous parle de l'Église. Et au fil des lectures pendant l'été, j'ai été frappé par la résonance qu'il y avait entre le texte qu'on va lire dans l'Épître aux Éphésiens et un psaume qui parle aussi de la communion fraternelle. Et on va redécouvrir ou découvrir trois aspects de l'Église qui ne résument pas tous les aspects de l'Église, parce que c'est un sujet tellement vaste. Mais voilà, ces trois aspects qui me semblent intéressants d'évoquer ce matin. Et une petite précision avant de les lire pour le premier rang, notamment, quand on parle de l'Église dans le Nouveau Testament, dans la Bible, on parle de deux choses qui se complètent. On parle de l'Église locale, ici par exemple l'Église de Vendeuvre, on est une Église, mais on fait aussi partie d'un ensemble plus grand et qui nous dépasse, qui est l'Église avec un grand E. L'Église qu'on dit universelle, c'est-à-dire l'Église qui est dans le monde entier, qui se réunit à Abidjan, à Montréal, à Taipei, à Villeurbanne. Voilà, tout ça c'est l'Église. Donc il y a les églises. Et le texte qu'on va lire, il nous parle des deux. Il s'applique aussi bien à l'Église universelle, l'Église qui est dans le monde entier, qui se réunit ce matin, et il vaut aussi pour nous ici, à Vendeuvre. On va lire Éphésiens. La lettre de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 18 à 22, ce qui est affiché derrière vous. Grâce à lui, et lui, si on remonte un peu plus en avant dans le texte, il s'agit de Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ, nous avons accès, les uns comme les autres, auprès du Père, par le même Esprit. Voilà pourquoi vous n'êtes plus des étrangers ou des résidents temporaires. Vous êtes concitoyens des membres du peuple de Dieu. Vous faites partie de la famille de Dieu. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève, bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Et, unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Et puis on va aussi lire le psaume 133. Qui s'affiche là. Vous voyez, c'est un peu en tireté la dernière ligne, hein, puisqu'il y a les fanions du mariage qui égayent l'ambiance, mais qui du coup... Je vais le lire. Chant des montées de David. Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Alors, vous avez peut-être remarqué que dans aucun des textes qu'on a lus, il y a le mot « église ». On ne trouve pas ce mot. Hein. Quelles sont les expressions qu'on va trouver pour parler de cette église ? Il est question de l'église. Qu'est-ce qu'on utilise ? Comme terme. La famille, les frères, Ouais, donc on retrouve bien cet aspect de famille. L'habitation, un bâtiment, un édifice. Et puis on trouve aussi l'expression du peuple. Et donc on parle bien ici de l'Église, mais avec différentes images. Et le premier verset, on peut revenir, tu peux afficher après. Voilà, verset 18. C'est grâce à Jésus-Christ que l'Église existe. C'est grâce à Jésus-Christ qu'on a accès auprès du Père. C'est l'œuvre de Jésus-Christ qui est au centre de l'Église. Et c'est pour ça qu'après on va partager le pain et le vin. Sans Jésus-Christ, l'Église n'existerait pas. Grâce à Jésus-Christ, nous avons accès au Père. Et ce sur quoi j'aimerais qu'on s'arrête, c'est l'expression « les uns comme les autres ». Qu'est-ce que Paul peut bien vouloir dire en disant « les uns comme les autres » ? C'est une question un peu piège parce que la réponse, elle est juste dans les versets qui précèdent. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut lire, veut apporter, regarder et nous dire de quoi il parle. Les uns comme les autres. C'est qui les uns, c'est qui les autres? Les juifs et les non-juifs. Exactement. Les juifs et les non-juifs. Les uns, ce sont les chrétiens d'origine juive qui se sont convertis, qui ont reconnu que Jésus était le Messie, annoncé par les prophètes. Et les autres, ce sont les chrétiens qui croient en Jésus et qui n'ont pas du tout un arrière-plan juif, qui viennent de religions païennes. Et pourquoi est-ce que c'est important qu'ils disent les uns comme les autres? Parce que quand on relit l'Ancien Testament, on voit que l'idée de séparation entre les juifs et les non-juifs était quelque chose de très important. C'est ce qui devait permettre au peuple d'Israël de garder sa pureté. Et dans l'identité des juifs, les païens étaient ceux qui n'avaient pas été choisis par Dieu, alors qu'eux l'avaient été. Le peuple juif devait garder ses distances, il devait bien marquer la différence. Et ici, Paul dit, les juifs, ceux qui viennent d'origine juive, ceux qui sont d'origine juive, et puis les autres, vous avez tous les deux accès de la même manière au Père. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'œuvre de Jésus qui a complètement modifié, qui a enlevé cette distinction. Cette différence d'origine n'a plus de raison d'exister. Et quelle que soit notre origine, on a accès à Dieu, on a accès au Père. Dans l'Église, il n'y a pas de chrétiens de première zone ou de première catégorie, des chrétiens de deuxième catégorie. Pourtant, on vient tous d'origines différentes. On pourrait imaginer, en fait, faire la liste de tout ce qui pourrait nous séparer entre nos différences d'âge. On pourrait avoir des églises de jeunes et des églises de seniors. On pourrait avoir des églises dans lesquelles on va séparer les hommes et les femmes. Des églises pour personnes dont la peau est noire, des églises dans lesquelles les gens ont la peau blanche, des églises pour les intellectuels, des églises pour les manuels, des églises pour les sans-papiers, des églises pour les gens qui sont en règle. Toutes ces distinctions qui sont bien présentes dans notre société et qui sont une réalité ne peuvent pas entamer l'unité qui existe dans notre accès à Dieu. Dans la communauté chrétienne, il y a une unité. On a tous le même statut aux yeux de Dieu. Et plutôt que de nous séparer, les différences sont une richesse. Et je pense qu'on peut vraiment se réjouir de voir dans l'Église des gens qui viennent de cultures différentes, de pays différents, des générations différentes, des personnes qui ont des dons différents. Je pense qu'on peut vivre, quand on voit les différences comme étant le signe de cette absence de barrière, on peut vraiment vivre ça comme un sujet de joie, de réjouissance, et on peut être reconnaissant. Et moi, c'est un des aspects que j'aime beaucoup, dans l'Église, dans le monde entier, mais aussi dans l'Église de Vendeuvre. Alors, on n'est pas là pour s'envoyer des fleurs. Hein. Je pense que c'est aussi un appel à être vigilant, à ne pas vouloir limiter notre Église à un certain type de personnes, une certaine catégorie sociale, etc., mais à être ouvert. Il n'y a pas de différence entre les enfants de Dieu. Et Paul enfonce le clou au verset suivant, puisqu'il va désormais parler de l'Église avec deux images fortes, celle d'un peuple et d'une famille. Alors la famille, pour ceux qui étaient au week-end d'Église, on en a parlé, hein, c'était le thème de notre week-end d'Église au mois de mai. Et on avait dit à cette occasion que pour certains, la famille, ce n'est pas forcément une image très positive, parce qu'ils ont vécu des choses difficiles dans leur famille. Mais là, ce qu'il faut rappeler, c'est que le père de la famille de Dieu, c'est Dieu, c'est un père parfait. Et Dieu fait tomber les barrières entre les hommes et il nous inclut dans sa famille. Il met en place un nouveau lien d'attachement, un lien d'attachement avec notre Père céleste, un lien d'attachement avec notre roi. L'image du peuple, c'est l'image du roi, du souverain et de son peuple. Nous sommes maintenant liés à Dieu comme un peuple vis-à-vis de son roi, comme des enfants vis-à-vis de leur père. Mais de fait, nous sommes aussi du coup liés les uns aux autres. Nous sommes liés avec nos frères et nos sœurs. Et cette réalité des relations et d'une famille, c'est quelque chose qui est valable qu'on soit dans une église de 5 personnes ou dans une église de 10 000 personnes. Et ce lien qui existe entre nous, dans cette famille de Dieu, c'est un cadeau de Dieu, c'est une bénédiction. Et c'est ce que on retrouve dans ce psaume 133, qui commence par une exclamation. Une traduction littérale serait « Voici que c'est bon, que c'est agréable pour des frères d'être réunis ». On pourrait presque traduire en disant « Quel pied d'être ensemble » ou « Quel kiff d'être tous ensemble ». Peut-être qu'à Espérance, ça pourrait être... C'est le kiff. Alors parfois, on perd un peu de vue cette dimension, parce qu'on s'habitue aux bonnes choses. Et on perd parfois le goût de ce bonheur, de cette joie. Parfois, il peut aussi y avoir des tensions. Parfois, on peut être agacé, parce que nos frères et nos sœurs, on ne les a pas choisis. Et parfois... c'est pas tout à fait le comportement de telle ou telle personne peut nous agacer, nous énerver. Parfois, on peut aussi voir l'Église avant tout comme une suite d'activités auxquelles il faut participer. L'Église est une bénédiction, et je pense que il faut qu'on soit reconnaissant envers Dieu pour la bénédiction qu'il nous accorde, le fait de nous avoir placés ici ou dans une autre église, peu importe, de nous avoir placés en tout cas dans une communauté de frères et de sœurs. Et cette bénédiction, c'est à la fois le fait de briser les barrières qui nous séparent dans la société et de nous créer un lien fort avec Dieu et entre nous. L'Église, une bénédiction. Quand on poursuit la lecture du texte des Éphésiens, on va passer à la diapositive suivante, on voit que Paul va utiliser une troisième image, celle d'une construction. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre principale. En lui, toute la construction s'élève bien coordonnée, afin d'être un temple saint dans le Seigneur. Une autre image forte qui va être reprise notamment dans l'épître de Pierre. On retrouve le rôle central de Jésus. C'est Jésus qui permet que l'Église existe, mais c'est aussi sur Jésus que l'Église se construit. Et les trois mots qui ont retenu mon attention, on les trouve au verset 20. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit. Qu'il construit. C'est Dieu qui construit l'Église. Dieu est à l'œuvre pour ajouter de nouvelles personnes. C'est Dieu qui travaille pour que l'Église se développe. C'est Dieu qui a tracé les plans. C'est Dieu qui décide du calendrier. C'est Dieu qui décide de la manière dont cet édifice est agencé. Alors pourquoi c'est important de rappeler ça? Parce que si c'est Dieu qui construit l'Église, ça veut dire que ce n'est pas nous qui construisons l'Église. C'est pas moi, c'est pas l'église de Vendeuvre, c'est pas France Mission, c'est pas le CNEF, ce n'est pas nous qui construisons l'église, c'est Dieu qui construit l'église. Et pourtant, on a un rôle à jouer. Mais ce n'est pas celui d'architecte, ce n'est pas celui d'œuvrer pour construire quelque chose. Quel est notre rôle? On a un petit indice dans le texte qu'on vient de lire, parce qu'on nous précise de quel type d'édifice il s'agit. Est-ce que vous le voyez? Un temple, exactement. L'église est le temple de Dieu. Alors, le temple, il était où? Je m'adresse aux deux filles de devant, là. Le temple à Jérusalem, ouais. Il y avait le temple qui était à Jérusalem. Et avec la mort de Jésus, et le temple, il n'a plus vraiment il n'y a plus besoin du temple, puisqu'il n'y a plus besoin d'offrir de sacrifices. Et pourtant, ici, Paul nous dit que c'est l'Église qui a pris le relais du temple de Jérusalem. Et alors, toujours Charlotte et Clémence, pouvez-vous me dire qui travaillait dans le temple? Qui rentrait dans le temple? Qui avait le droit d'entrer dans le temple? Les prêtres. Je vous assure, je ne leur ai pas donné la réponse avant. Ouais, c'était des prêtres, des personnes qui étaient entièrement consacrées à Dieu et qui servaient Dieu, qui offraient des sacrifices pour le pardon des péchés, pour la reconnaissance, mais qui étaient aussi les porte-parole du peuple et qui proclamaient la parole auprès du peuple. Et d'une certaine manière, ce texte nous oriente dans l'idée que, oui, les croyants, nous avons cette dignité de prêtre. Alors, c'est très développé dans l'épître de Pierre, où là, on dit clairement que les croyants sont des prêtres, des pierres vivantes et des prêtres. Et cette idée-là, que les chrétiens sont des prêtres, il y a en théologie une expression un peu compliquée qu'on utilise pour dire ça, c'est ce qu'on appelle le sacerdoce universel. Le sacerdoce universel, ça veut dire que tous les croyants ont cette dignité de prêtre. C'est une idée qui a été très importante au moment où l'Église protestante s'est constituée, au XVIe siècle. Ça a été une idée notamment très forte chez Luther et ensuite chez d'autres chrétiens, Darby par exemple, l'idée de dire que tous les croyants sont des prêtres. Et c'est notamment une différence importante entre les églises protestantes et l'église catholique. Et le rôle du prêtre, ce n'est pas de construire le temple, mais c'est de servir dans le temple. Dans les années 1930, un pasteur allemand qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer a mis en place un séminaire, un stage de formation de jeunes pasteurs. Son objectif, c'est de les former au travail pastoral. Et ce séminaire était assez particulier. C'était à la fois un séminaire où les gens vivaient en communauté. Alors, je ne sais pas si à l'Institut biblique de Genève, on vit en communauté, mais en tout cas, il y a quand même une dimension communautaire, hein, encore aujourd'hui, dans les centres de formation pour les pasteurs. Et c'était aussi un séminaire clandestin, parce que dans les années 1930, en Allemagne, il y avait le régime fasciste qui était au pouvoir et qui avait un peu pris le contrôle de certaines des églises. Et Dietrich Bonhoeffer avait refusé ça. Il était opposé au régime fasciste. D'ailleurs, il sera arrêté en 1943 et exécuté en avril 1945. Et voici ce qu'il écrit. On peut afficher, vous aurez son portrait et la citation qui m'a interpellé dans son livre, qu'il a consacré justement sur les expériences et ce qu'il retenait de ses expériences de vie communautaire. « La fraternité chrétienne n'est pas un idéal que nous aurions à réaliser, mais une réalité créée par Dieu en Christ, à laquelle il nous est permis d'avoir part. » C'est Dieu qui construit l'Église. Il nous y intègre, il nous permet d'avoir notre place. On a vouloir construire l'Église par nous-mêmes, c'est comme si on voulait construire une cabane avec des petits bouts de bois à côté du château de Versailles, en disant ah « ben, ça c'est l'Église ». Non, Dieu, il construit, il édifie l'Église et il nous invite. Heureusement d'ailleurs que c'est dans ce sens-là et que ce n'est pas l'inverse, que ce n'est pas nous qui construisons l'Église. Je pense que l'Église aurait disparu depuis longtemps si c'était le cas. Ce qui importe, ce n'est pas notre idée de l'Église idéale et notre volonté de mettre ça en œuvre, mais c'est d'essayer de discerner et de de voir là où Dieu est à l'œuvre et de demander à Dieu de nous montrer aussi comment est-ce que nous, on peut participer à son service dans l'Église. Et cette image du prêtre, on la retrouve dans le psaume 133. Aaron, c'est le premier prêtre. Et le fait d'être... cette communion fraternelle, elle est comparée à de l'huile parfumée. L'huile parfumée, c'est celle qu'on utilisait pour oindre les prêtres. Se placer devant Dieu, nous pouvons nous placer devant Dieu pour lui demander, parce que ce n'est pas forcément simple de voir où Dieu ou comment Dieu agit, là où Dieu agit dans la vie des frères et des sœurs, pour ensuite le suivre. Au lieu de vouloir nous faire des choses et dire à Dieu après coup, et Dieu, tu veux pas venir, regarde, on fait des super trucs, on aimerait bien que tu sois participant aussi. C'est Dieu qui nous fait participer à son travail. Priez que Dieu nous rende attentifs à la manière dont il construit l'Église et nous montrer comment on peut se mettre à son service. L'Église, une bénédiction, l'Église, une construction faite par Dieu dans laquelle il nous invite à travailler, à servir. Et dernier élément, dans le verset 22, on va le relire. Unis au Christ, vous avez été intégrés ensemble à cette construction pour former une demeure où Dieu habite par l'Esprit. Tout comme Dieu était présent dans le temple de Jérusalem, Dieu est présent dans l'Église. Et je pense que cette présence de Dieu par son Esprit, par la présence du Saint-Esprit, c'est un élément qui nous aide justement à voir, à comprendre comment Dieu travaille et à mieux comprendre notre place. Alors ça peut sembler un peu mystérieux de se dire que Dieu habite dans l'Église. Et là je m'adresse de nouveau au premier rang. Alors vous avez compris, quand je dis je m'adresse au premier rang, en fait je m'adresse à tout le monde. Mais c'est pour que les gens derrière ils se disent « Oh oui, non mais ça c'est des choses qu'on connaît déjà, mais voilà. » Dire que Dieu habite dans l'Église, ça renvoie à ce qu'on appelle la vision du monde. On va faire simple et rapide. La Bible nous dit qu'il y a deux éléments. Il y a l'espace de Dieu, la sphère de Dieu et la sphère des hommes. La sphère de Dieu, c'est le ciel. La Bible appelle le ciel avec un grand C. Et la sphère des hommes, c'est la terre. Et au fil des siècles, il y a des gens qui ont construit des systèmes de croyances, des religions, où ces deux espaces étaient plus ou moins proches. On va voir. Alors, il y a ceux qui pensent que la sphère de Dieu et la sphère de l'homme, elles sont complètement séparées. Dieu, il est loin. Il existe. Il existe, Dieu, mais il est loin. Il est loin, il a créé le monde, mais ensuite, il ne s'intéresse plus trop au monde. On ne peut pas lui parler, on ne peut pas l'atteindre. Il n'intervient pas dans nos vies. C'est... de manière un peu inconsciente, ce que je pense beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, oui, je crois en Dieu, mais voilà, je ne prie pas, je ne vais pas à l'église. Il y a pas mal, je pense, en France, de personnes qui ont plutôt cette vision-là de Dieu. Oui, Dieu, il existe, mais il ne s'intéresse pas à nous. Et de toute façon, on ne peut pas lui parler, on ne peut pas l'atteindre. Il y a une autre vision dans laquelle les deux sphères sont quasiment superposées. Et où là, Dieu est partout. Mais partout, c'est Dieu aussi. C'est-à-dire que chaque élément de la nature, chaque être vivant, chaque personne, chaque animal a une part de divinité en lui. On ne distingue plus du tout l'idée d'un Dieu créateur et de créature. Et ça, c'est des choses qui sont très présentes dans les religions animistes et aussi dans la superstition qui est bien présente dans l'Hexagone. Et puis, il y a la vision du monde qui est celle de la Bible, où on ne va pas amalgamer la sphère de Dieu et la sphère des hommes, mais où elles ne sont pas séparées par un profond fossé. Elles se recoupent. Elles se recoupent de manière un peu mystérieuse à certains endroits. Et la Bible nous parle de ces endroits-là, là où les deux se recoupent. Vous connaissez l'histoire de Jacob avec l'échelle dans son songe. On connaît l'histoire du buisson ardent avec Moïse. On connaît l'histoire du peuple de Dieu dans le désert. Est-ce que vous pouvez me rappeler comment on appelait le tabernacle, l'autre nom du tabernacle, la tente de la rencontre, là où ces deux mondes se rencontrent. Et puis il y avait le coffre de l'Alliance, le temple, et c'était ce lieu où Dieu rencontre le monde des hommes. Et ça a culminé avec Jésus qui vient sur terre. Et aujourd'hui, c'est dans l'Église. C'est l'Église qui est cette interface entre l'espace de Dieu et l'espace des hommes. Dieu habite l'Église par son Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit, c'est la personne du Saint-Esprit qui donne la vitalité, l'énergie, la direction à l'Église et à chacun des membres de l'Église. Dans le psaume 133, on utilise l'image de la rosée rafraîchissante. On en aurait bien eu besoin, je pense, ces derniers jours, hein, d'une rosée rafraîchissante qui descend du mont de l'Hermon. Le mont de l'Hermon, peut-être que Jean-Lionel et Françoise l'ont vu quand ils y sont allés au Liban, c'est une grande montagne. Il y a parfois même il y a de la neige qui reste pendant longtemps. Et ce mont Hermon, il est, alors que le mont Sion, c'est Jérusalem, qui est éloigné et qui est dans une zone beaucoup plus sèche, beaucoup plus aride. Et dans le psaume 133, la fraternité, la vie en communauté entre frères et sœurs est comparée à cette rosée rafraîchissante, cette rosée qui vient, qui est comme une promesse de croissance et qui est aussi une image du Saint-Esprit. Hein, l'eau et l'huile sont tous deux des images de la présence de Dieu et du Saint-Esprit dans la Bible. La communauté des chrétiens, c'est une communauté de l'Esprit, du Saint-Esprit. Une communauté spirituelle qui tire sa force, sa vitalité, son discernement de l'Esprit de Dieu. L'Église est une bénédiction. Apprenons à être reconnaissants envers Dieu pour ce cadeau. L'Église est un temple. Demandons à notre Père de nous aider à voir son action dans l'Église, à y servir avec notre rôle de prêtre. L'Église, c'est l'habitation du Saint-Esprit. Que justement Dieu nous remplisse continuellement de cet esprit pour nous diriger. Alors je vous ai demandé au départ ce que le mot église évoquait pour vous. Peut-être que c'est une ambiance, des activités, un bâtiment, des visages. Souvent moi ça m'évoque spontanément des personnes. Et les deux textes qu'on a lus ce matin nous ont présenté trois aspects de l'église de Dieu qui peuvent nous sembler peut-être un peu abstraits. Ou un peu plus compliqué que ceux qui nous viennent spontanément à l'Église, à l'Esprit. Une bénédiction, un temple, une habitation de l'Esprit. On comprend ce que ça veut dire, mais on n'a pas forcément... ça nous paraît peut-être plus compliqué de l'expérimenter concrètement. Je pense que c'est en partie lié au fait qu'on projette sur l'Église nos propres idéaux. Et je nous encourage chacun, et je m'y inclus, à rechercher ce que Dieu a déjà établi, ce que Dieu construit, la manière dont il est à l'œuvre, et qui peut être parfois éloigné de ce qu'on imagine être l'Église ou la communauté chrétienne idéale. Le fait qu'on soit présent et que Dieu nous ait placés dans une Église, ce n'est pas un accident et ce n'est pas dû au hasard. À travers l'Église, Dieu veut bénir ses enfants. Et c'est le dernier passage qu'on va lire, la toute fin du psaume 133, c'est là, dans la communauté, que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. C'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Je vous invite à la prière.